La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, je vous propose en ce mois d'octobre de nous pencher sur l'art à partir de « Art scolastique » écrit en 1920 par Jacques Maritain. Comment situer art scolastique? Je vous propose une citation de 1970, extraite de l'Église du Christ, une autre œuvre de Jacques Maritain. Mes maîtres scolastiques m'ont enseigné une doctrine que je chéris. Mais j'ai toujours pensé que le mode d'exposition, l'allure et le style dit scolastique ont fini leur temps, parce qu'ils sont devenus un obstacle à la vie et au progrès de cette grande doctrine dans l'histoire humaine. Ce dont elle a besoin, ce n'est plus d'une approche doctorale et magistrale, inscrivant dans le marbre un 7 contrats majestueux et des réponses péremptoires à des objections numérotées. C'est d'une approche libre, chercheuse, humble et fière à la fois. Il y avait de cela dans le style de Bergson. Transition donc avec la série précédente autour de Bergson, avec la discussion autour du bergsonisme et de la difficulté de la pensée de Maritain pour nos contemporains, et l'art. Pourquoi l'art remplit-il une place si importante dans la vie de Maritain? Tout simplement parce qu'il est marié à Raïssa, qui est une artiste. Elle est musicienne et poète. Elle publie 3 recueils. Et puis surtout, parce qu'au plan philosophique, l'art va permettre à Maritain de penser la volonté et l'intelligence dans le rapport des deux plans, spéculatif et pratique. Alors Maritain est un philosophe tout à fait exceptionnel, puisque toute sa vie, il a plongé dans l'art par la fréquentation des artistes. Vous pouvez vous reporter à un excellent catalogue publié en 2016 par la BNU de Strasbourg, Maritain et les artistes. Et c'était à l'occasion d'une exposition hors du commun, puisqu'on voyait des œuvres de Chagall, de Severini, de Rouault, de Jean Hugo. Et Michel Fourcade, président du Cercle Maritain, présente ainsi l'importance de l'art dans la vie de Maritain. D'art et scolastique à Creative Intuition in Art and Poetry, l'œuvre du philosophe a été mêlée de près à l'aventure esthétique du siècle. Et alors que Jacques, contrarié dans la solitude contemplative qu'il avait choisie à la mort de Raïssa, recevait le Grand Prix National des Lettres en 1963, plusieurs ont pu témoigner de la fécondité substantielle de sa réflexion théorique. Il y a quelque chose de césanien dans l'esprit de Maritain, expliquait ainsi Pierre Garder. Transparente cohésion de la montagne Sainte-Victoire. Ce n'est pas non plus un hasard si nous nous retrouvions souvent devant l'étoile du maître d'Aix. Or, cette clarté structurée se nourrit de toute l'ombre qu'elle réduit. Le Grand Prix ne fera que consacrer cette œuvre de remembrement de la pensée qui a libéré tant d'entre nous des fausses oppositions obstruant les voies de l'esprit et freinant la marche de l'action, que ce soit dans l'art, la connaissance ou la vie. Quelle personnalité va marquer Maritain, à l'exception de Léon Blois, son parrain dont nous avons déjà parlé? Tout simplement Georges Rouault, l'élève de Gustave Moreau, le peintre qui fait des faces entourées de noir, de type vitrail. Il se trouve que Rouault habitera rue l'Orangerie à Versailles, dans la même rue que les Maritains. Une fois par semaine, Rouault sera l'hôte des Maritains. Les Maritains auront le privilège de pouvoir voir l'atelier de Rouault. Ils seront même les parrains des enfants de Rouault. Autrement dit, il s'agit vraiment d'une osmose, d'une immersion dans l'art. Et quand est publié Art et scolastique en 1920, c'est finalement Rouault qui sert de modèle à Jacques et Raissa Maritain, car la rédaction de Arrêt Scolastique s'est faite à la campagne pendant une année où Raissa était très malade et elle a été, on va dire, la muse inspiratrice. C'est une œuvre écrite d'une certaine manière à quatre mains. Comment comprendre Rouault? Eh bien, en fait, je ne vous ai pas dit une vérité tout à fait exacte quand je vous ai dit que le bergsonisme en 1913 était la première œuvre de Maritain. Bien sûr, c'est vrai. Mais en 1910, il a déjà écrit, sous un pseudonyme, celui de Jacques Favel, une préface, une présentation de Rouault, et c'est en fait sa première œuvre. C'est intéressant de voir qu'il mène en parallèle la spéculation, donc la métaphysique, et le plan pratique. Pour un scolastique, petit rappel, le plan pratique se divise en deux. Le factibile, c'est ce que l'on fait, c'est l'œuvre. Et l'agibilé, c'est la morale, c'est ce là où on agit. Ce qui va régir l'œuvre, c'est l'art. L'art qui est à la prudence, ce que la prudence est à l'agir. L'agir est régi par la prudence. On est dans la morale. Et l'art, Maritain va insister pour montrer que c'est un parallèle avec la prudence. Laissons-le comprendre comment Rouault va l'influencer dans sa pensée sur l'art. Maritain relate un petit fait qui est un extrait de la biographie de Rouault lorsque Rouault était apprenti verrier. La vie de Georges Rouault n'offre pas seulement un magnifique exemple de désintéressement, de courage patient, de labeur acharné, obstiné sans répit. Elle recèle des vertus plus profondes. Apprenti verrier, il gagnait alors 50 centimes par semaine. Son patron, quand il fallait porter un colis au loin, lui donnait 3 sous pour prendre l'omnibus. L'enfant faisait la course à pied et gardait les 3 sous pour acheter des couleurs. Mais pour ne pas dérober même une minute à son patron, il prenait le départ avec l'omnibus et courait sans discontinuer afin d'arriver en même temps que le véhicule qui aurait dû le transporter. Astucieuse combinaison qui accordait les intérêts des beaux-arts et ceux de la probité aux dépens du muscle cardiaque. Il nous plaît de voir dans ce trait puéril un symbole de l'admirable rectitude morale austère, scrupuleuse, héroïque au besoin de ce grand artiste toujours resté artisan. Il y a en Rouault une pureté, presque janséniste et qui pourrait devenir cruelle, qui fait sa force et sa liberté. Il y a aussi en lui, comme une source vive cachée, un sentiment religieux intense, une foi d'ermite entêté, qui l'a conduit à Huysmans et à Léon Blois et qui lui faisait découvrir l'image de l'agneau divin en tous les abandonnés et tous les rejetés sur lesquels il s'apitoie. C'est la religion qui est à l'origine de sa tendresse et de sa révolte, de sa haine contre tous les genres de pharisaïsme. Ajoutez à cela les qualités d'un œil prodigieusement sensible et le don d'une observation sans pitié, vous comprendrez la vraie signification de ses véhémences. Ce petit épisode est très important pour Maritain. Pourquoi ? Parce qu'il donne une continuité entre l'homme et l'artiste. L'homme, c'est Rouault en train de courir. C'est Rouault probe. C'est Rouault avec une déontologie, avec une morale, qui va économiser de l'argent sans prendre sur le temps de son maître. Et parallèlement, vous avez l'artiste. Et l'artiste ne va pas être régi par la règle de la prudence qui régit l'agir, mais va être régi par les règles de l'art. Et Maritain va écrire dans Art et Scolastique que l'art est en dehors de la sphère humaine. L'art a des règles et l'art est finalement inhumain en dehors de cette sphère. Et il va, à partir de cet exemple très précis de Rouault, élaborer finalement une doctrine où l'art et la prudence entrent en conflit. En conflit double, puisque la prudence va renvoyer à la volonté, elle appartient à la sphère pratique, mais de l'agir. Alors que l'art va être une vertu de l'intellect pratique et va renvoyer à l'intelligence. C'est très important parce que cette définition de l'art vient positionner l'art dans le champ pratique. Le beau sera, lui, dans le champ spéculatif avec les autres transcendantaux et permet à Maritain de revenir à une autre conception après Kant et Hegel. On a des esthétiques splendides et elles ne conviennent pas à Maritain parce qu'elles vont tirer l'art du côté du sujet. Tout l'enjeu de Maritain est de redonner une objectivité à l'art. Et en positionnant l'art comme des règles en dehors de la sphère pratique, cela lui permet de garder une objectivité. Nous rentrerons dans le texte de Maritain après Satie. Pourquoi écouter du Satie ? Tout simplement parce que Maritain l'a accompagné jusqu'à la veille de sa mort et l'interprétation que vous entendrez correspond bien à ce désir de mettre le thomisme dans les rues, de prendre la guitare et d'aller jouer dans les rues. Je vais rendre ici hommage à un disciple de Maritain, un Roumain, Ioan Miclea, qui n'a jamais rencontré Maritain, qui lui a écrit pendant l'entre-deux-guerres, et puis la guerre s'est déclarée, Maritain n'a pas pu venir en Roumanie. Et ce disciple lointain a fait une sorte de synthèse de la pensée de Maritain en roumain. Il est autodidacte et la synthèse est particulièrement remarquable pour art et scolastique. Nous allons partir du début de l'art scolastique et vous allez comprendre pourquoi on a besoin d'une synthèse. Voici. Les scolastiques n'ont pas écrit de traité spécial intitulé « Philosophie de l'art ». On trouve cependant chez eux une théorie de l'art très profonde, mais il faut la chercher dans des dissertations austères sur quelques problèmes de logique. La logique est-elle un art libéral ? Ou de théologie morale ? Comment la vertu de prudence, vertu à la fois intellectuelle et morale, se distingue-t-elle de l'art qui est une vertu intellectuelle ? Je pense que vous mesurez combien nous sommes perdus, parce que art libéral, vertu intellectuelle sont des expressions inintelligibles et fort loin de nos repères. Ioan Miclea a repris la pensée de Maritain dans Art scolastique et en 5 points, il va nous diriger vers la vertu de l'art. Il commence par dire que dans le thomisme, la philosophie du beau est exposée dans l'ontologie. Elle appartient à l'ordre spéculatif, je viens de le rappeler. Deuxièmement, il dit que l'art appartient à l'ordre pratique, mais il rajoute que les moments sont très rares où l'intellectuel connaît, c'est-à-dire s'occupe de la dimension spéculative, sans aucune utilité pratique. Ce qui va lui permettre de faire un pont, finalement, entre la beauté et l'art. Il enchaîne en disant que l'emploi de la liberté dépend de la volonté qui, de soi, ne tend pas au vrai, mais au bien de l'homme. Ainsi, l'agibilé, l'agir est ordonné à la fin commune de la vie humaine. Il intéresse la perfection propre de l'être humain. Son domaine est celui de l'éthique et de la morale. Tandis que l'art règle ou gouverne le factibilé. Il tombe de lui-même hors de la limitation humaine. Il a une fin, des normes, des valeurs propres, qui ne sont pas celles de l'homme, puisque ça concerne la morale, mais de l'œuvre à produire. Toutes sont pour l'art. Une seule loi le gouverne. les exigences et l'accomplissement de l'œuvre. Elle dispose ainsi d'une puissance tyrannique énorme. Elle ne voit ni n'entend, ni ne sait rien, sinon ses exigences inflexibles. Elle fait de l'artiste pratiquement un serviteur, non un homme. Elle l'installe dans un monde différent, fermé, dans lequel il dépense toutes ses puissances au service d'une œuvre à accomplir. Et pour revenir à Rouault, le dilemme était important. Il avait une famille à nourrir. Devait-il continuer dans la voie où il était reconnu, élève de Moreau, brillant, ou écouter la voix intérieure, son intuition créatrice, et dans ce cas-là, obéir aux règles de l'art, quitte à appauvrir sa famille. Parce qu'il aurait peut-être moins vendu, il aurait été moins à la mode, moins en vue. Faut-il chercher le profit immédiat, la renommée, la gloire, ou approfondir son art et suivre sa vocation. On retrouve déjà les deux voies qu'on proposait dans l'Antiquité à Hercule, une vie courte et glorieuse ou une vie longue et peu heureuse. Il y a des moments qui sont cruciaux dans la vie où il faut choisir. Et ce conflit entre la morale et l'art, il est au sein, au cœur de l'artiste. Mikléa insiste en disant que l'art est une vertu intellectuelle et écrit « L'artiste, toutefois, avant d'être un artiste, a été et reste un homme, même quand il est un grand artiste. De là naît le conflit entre l'homme et l'artiste, entre la morale et l'art, conflit qui va être le creuset de Jacques Maritain pour finalement toutes ses publications sur l'art. L'art procède ainsi par des voies certaines et déterminées, d'où la définition de l'art que l'on retrouve en scolastique. L'art ne peut être qu'une vertu intellectuelle et on peut dire qu'il y a trois savants. Le savant est un intellectuel qui démontre, l'artiste est un intellectuel qui opère, donc qui fait, le prudent, l'homme moral, est un volontaire intelligent qui agit bien. Voilà pour l'art. Maintenant, il faut enchaîner avec le beau. Le beau, dans la conception thomiste, vous l'avez compris, est lié aux transcendentaux. Que sont les transcendentaux? Ils sont hérités de Platon. Le beau, le bien, le bon, l'être, l'un, le multiple. Ce sont des valeurs qui transcendent l'homme, c'est-à-dire qui vont lui permettre d'atteindre un plan universel. Et les transcendentaux permettent la pensée dans la dimension spéculative. Il faut bien avoir en tête que le plan spéculatif et le plan pratique sont distincts par leur finalité. Le plan spéculatif a pour finalité la connaissance, le savoir. Le plan pratique, un faire, qui est un agibilé quand on est en morale et une œuvre quand on est en factibilé dans la deuxième dimension du plan pratique. Le lieu du beau est donc le monde intelligible, même si c'est aussi le monde sensible, parce que les sens servent l'intelligence. Parmi les sens, ceux dont la science est la plus grande sont la vue et l'ouïe. Vous reconnaissez l'héritage aristotélicien. Lisez Merleau-Ponty, pour lui, le sens du toucher est valorisé. Il a accès à une science par la perception sensible, par le toucher. C'est pourquoi les sens sont aussi appelés maximae cognoscitivi. Dans la perception du beau, le rôle des sens est considérable parce que notre intelligence n'est pas intuitive comme celle des anges. Celle-ci perçoit, certes, mais seulement par abstraction. La connaissance sensible a chez l'homme le caractère intuitif par lequel elle perçoit le beau à l'état pur et les choses qui sont intuitionnées d'abord par les sens. Conséquence. De là découle la délectation de l'intelligence. Et là, on rejoint une affirmation de saint Thomas qui dit « L'intelligence a besoin de délectation, et s'il n'y a pas de délectation, elle la trouvera dans des sens et dans les sens les plus bas. » D'où l'importance de la culture et de l'art, même dans des conditions difficiles, comme notre confinement, il faut garder une dimension culturelle parce que l'homme vit de transcendantaux, comme le répétera Maritain plusieurs fois. Quelle est la source de la délectation, c'est-à-dire de la joie dans la contemplation du beau? Elle provient d'une perfection proportionnelle à celle qu'ont les choses en face de l'intelligence. Les trois conditions essentielles du beau, désignées par saint Thomas, sont intégrité, parce que l'intelligence aime l'être, proportion, parce que l'intelligence aime l'ordre et aime l'unité, enfin et surtout éclat et clarté, parce que l'intelligence aime la lumière et l'intelligibilité. Du coup, le caractère absolument essentiel du beau est un certain éclat, une splendeur. Maritain va jusqu'à écrire que le beau est le rayonnement de la forme. C'est la splendeur qui va rayonner sur tous les transcendantaux. Écoutons une autre pièce de Satie avant de terminer sur le beau.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Bel hommage à Erik Satie. Le beau, pourquoi est-il si important? Parce que toute forme est un vestige ou un rayon de l'intelligence, avec un grand I, créatrice imprimée au cœur de l'être créé. Nous le comprenons, il s'agit toujours de ce principe de l'incarnation, faire descendre le spirituel dans le temporel, et Maritain pense l'art et le beau à partir de Dieu. Tout ordre et toute proportion est œuvre d'intelligence. Donc le beau, la beauté, c'est le resplendissement de la forme sur les parties proportionnées de la matière, c'est-à-dire sur une fulguration d'intelligence, sur la matière disposée de manière intelligente. Kant sera longuement discuté dans une note d'Aréscolastique, la note 56 pour ceux qui veulent s'y référer, mais il va dire c'est très bien quand il définit ce qui plaît de manière universelle sans concept comme définition du beau, mais le danger c'est de glisser vers le subjectivisme. Alors comment conclure avant de passer à notre prochain chapitre autour de Jean Cocteau? Eh bien je vais conclure avec un parallèle que fait Jacques Maritain dans les degrés du savoir, entre le métaphysicien et le poète. Écoutez bien cette belle plume qui mérite un prix littéraire. À la naissance du métaphysicien comme à celle du poète, il y a comme une grâce d'ordre naturel. L'un qui jette son cœur dans les choses comme un dard ou une fusée, voit par divination, dans le sensible même, impossible à en séparer, l'éclat d'une lumière spirituelle où un regard de Dieu brille sur lui. L'autre, se détournant du sensible, voit par science, dans l'intelligible et détaché des choses périssables, cette lumière spirituelle elle-même captée en quelque idée. L'abstraction, qui est la mort de l'un, l'autre y respire. L'imagination, le discontinu, l'invérifiable ou l'autre périt, fait la vie de l'un. Aspirant tous deux, les rayons descendus de la nuit créatrice, celui-ci se nourrit d'une intelligibilité liée et aussi multiforme que les reflets de Dieu dans le monde, celui-là d'une intelligibilité désinvestie et aussi déterminée que l'être propre des choses. Il joue à la bascule, s'élevant dans le ciel tour à tour. Les spectateurs se moquent du jeu. Ils sont assis par terre. À la semaine prochaine.